France Inter.
C'est la bande originale. Bonjour, Jean-Paul Delaf, Julien Santini, Tanguy Pastureau, Daniel Morin,
notre invité
Elsa Silver.
Bande originale, Leïla Kadour et Maggie.
C'est vendredi, c'est vendredi.
Mais oui.
Mais oui.
Ouais. Et c'était une semaine tellement éprouvante. Tellement éprouvante.
Ah, ça, on en avait.
Le 8 octobre prochain, bonjour Elsa. Le 8 octobre prochain sortira donc ce film C'était mieux demain. Oui, vous êtes un couple des années 50-58, pour être précis, qui fait un bond dans les jours d'aujourd'hui, avec Didier Bourdon à l'affiche. Vous êtes un couple. C'est surtout sur l'évolution de la condition des femmes. Alors, petit tour de table avant de vous embêter, Elsa. Qu'est-ce qui n'a pas encore évolué dans la condition des femmes, Lisa Delmoitié? Il ne me fait pas le coup du le salaire n'est pas le même. Non, parce qu'ici, tout le monde a...
Ouais, tout le monde a le même.
Homme-femme, c'est le même salaire.
Ah non.
Ici?
Non.
Ah oui, c'est vrai, toi t'as moins, mais ça c'est
voilà.
Pour raison.
C'est pas le cas. Mais...
Ici
ouais.
Ah si.
Ah non.
Homme-femme
ouais. Non.
Homme-femme?
Non.
Ouais, si.
Non. Parce, bah,
si.
Non, parce qu'en fait, il y a homme-femme, mais après, on va te dire, il y a l'ancienneté, il y a l'arrivée, il y a la notoriété, il y a nanana. Donc, en fait,
merci, Leïla.
Fais le tour de table discrètement.
Ok, alors de l'autre côté de la vitre, parmi les réalisateurs, homme-femme, même salaire, non plus?
Bah, ça va dépendre de plein de choses, j'imagine. Parce que, imagine, t'as un congé maternité, tu prends un peu de retard dans l'évolution de ta carrière, tu loupes certaines opportunités, tu loupes certaines évolutions.
Mais les hommes n'ont pas d'arrêt maternité.
Non, mais
on va trouver un autre point de départ, alors.
Nagui, bravo!
Sinon, vous faisiez quoi en 1958? Mais non.
Mais non, mais c'est bien.
Moi, dans ma boîte, c'est pareil.
Ouais.
Oui, mais toi, t'es bien, toi.
Oui, alors, attends, on va faire autre chose.
Oui, une autre question.
Ouais, ouais,
non, t'as commencé en disant tout sauf ça. Non, non, ça, on sait que c'est pas le cas.
Ok.
Après, on peut.
Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était bien dans les années 60 et que tu aimerais qu'il existe encore aujourd'hui?
Je remets parfois un peu en question le. Est-ce que c'est 100% une chance de devoir aller travailler?
Ouais, je suis d'accord. Ça fait.
En tant que femme.
Oh là, ok.
Non,
d'accord.
Okay. Je suis contente d'avoir le choix, mais parfois c'est une pression et on a le droit d'aller travailler, mais à côté de ça, on n'a pas encore toutes les compensations.
Ouais.
D'accord.
On a juste une tâche en plus.
Ouais, j'ai compris.
C'est pas une grosse illusion en fait.
Ouais. Emma,
qu'est-ce que j'aurais aimé vivre dans les années 60?
Ouais.
Tout ça.
Ouais.
Bah, je sais pas trop. Moi, j'avoue, c'est une période que je fantasme beaucoup, mais que je connais pas.
Pourquoi?
La drogue peut-être. Non, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une esthétique qui est ultra à la mode aujourd'hui.
Ouais.
Et du coup, c'est un peu cette quête de renouveau de ce qui revient à la mode tout le temps. Mais en réalité, je crois que
je vais
non,
me jeter sur ton idée avant qu'elle soit piquée par quelqu'un d'autre autour de la table. Moi, ce qui me manque, c'est les couleurs.
Ouais.
Couleurs. Ouais. C'est-à-dire, t'avais des couleurs, par exemple, de bagnole qui étaient totalement dingues.
C'est
aujourd'hui,
vrai.
C'est le rouge, blanc ou noir. Non, mais il y avait des couleurs.
Un petit gris un peu foufou.
Il y avait des formes. Ouais, c'est ça.
Ouais, un petit gris.
Il y avait des formes dans les appareils, tout ça,
oui.
Qui était un peu...
Plus, électroménager, tu sais, machin.
Moulinette.
Évidemment.
Leïla, qu'est-ce que tu aimerais revivre des années 60?
Quand je vois le
60.
Film, pas du tout, rien. En fait,
mais
rien.
Si, il y a la couleur justement, il y a la chroma du film.
Ouais, voilà, oui, mais bon, ça, franchement, ça me donne pas vraiment envie non plus de vivre en 58, quoi. Non, peut-être aussi de mener une vie un peu avant-gardiste, c'est-à-dire que pour le coup, être en 58, pas mariée, avoir un, je sais pas, c'était aussi l'occasion d'ouvrir un chemin, voilà, militer avec toutes les femmes qui ont milité à l'époque. Ça, je pense que ça serait super.
Julien Santini.
Merci d'avoir compris la question.
On n'a pas le temps. Voilà,
je n'ai aucune réponse. Je n'ai aucune réponse.
Ou tu n'as même pas une phrase de.
Ah, pas du tout, j'en ai pas.
Une formule toute faite.
Mais non, c'est hyper compliqué. La question, elle ne me correspond pas.
À toi, Dani.
Oui, moi, je regrette le vin à la cantine pour les enfants. Quand je pense que ma fille va être obligée d'attendre d'avoir 18 ans, ça me déprime.
C'était 56.
Bah, Elsa, 56. Est-ce que c'est vrai? Il y avait une loi en 56. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne parle pas de votre personnage dans le film.
Oui, oui.
Quelque chose qui vous dit.
Comme vous, peut-être les couleurs, les looks, tout le style.
Non, pas la coiffure.
Vous avez même une montre un peu vintage aussi.
Oui, exact. Okay. Tout ce qui est un peu vintage aujourd'hui, revenu à la mode, je trouve que c'est assez génial. Mais bon, la condition des femmes, elles avaient juste le droit de vote, les femmes. C'est-à-dire que t'imagines, t'as pas de liberté économique, financière. Le moindre truc que tu dois faire, tu dois demander l'autorisation à ton mari.
Le compte en banque.
Tout.
Mais si tu n'as rien à cacher,
ça paraît dingue.
Non, mais Elsa, les cheveux.
les cheveux.
C'est pas possible. C'est pas possible, les cheveux.
Non, mais la soumission de la femme à l'homme est folle.
Bah oui.
Voilà. Julien Santini, non, mais c'était que... trop tard. C'était
non,
tout à l'heure.
Alors,
non, c'est, non c'est, je te jure, c'était
j'ai
tout à l'heure.
J'ai une bonne femme.
Oh, vous là, oh, oh là, là, ça c'est super,
oh
attention.
Oh là là,
oh non, monte, monte là, monte là, monte là.
J'en ai un peu marre d'entendre tout le temps, et j'adore Elsa, mais les, oui, les maris, il fallait attendre l'avis des maris, mais parfois les maris étaient d'accord.
Mais je dis pas vraiment, mais on se propose de partir.
Moi, je vous adore,
Non, non, plus maintenant, je vous adorerai.
Non, non, mais c'est la folie, imaginez, ah, je vais aller me faire la mise en pli, la fameuse mise en pli, est-ce que je peux avoir
50 francs
50 francs pour y aller. Donc ça me paraît...
Bon, Dieu sait que j'aime pas Santini, mais c'était juste une blague, je crois.
On va parler donc de ce film C'était mieux demain dans quelques instants, mais d'abord voici celui qui est votre plus grand fan.
Je suis fan d'Elsa Gilberstein, une de nos plus grandes actrices, une Little Miss Sunshine. Je crois que vous avez été découvert par Van Gogh, mais là au niveau date, il y a un truc qui bug. Et vous êtes là pour C'était mieux demain. Jamel Debbouze est bien d'accord là-dessus.
Non, non.
Un film mi-fantastique, mi-pas fantastique.
Non.
Quand on parle de conditions féminines antiques, pendant l'émission de Nagui. De Leila Kadour Boudali, j'ai imaginé sans complexe.
Oh, j'ai peur.
Pire que mon salaire, non mais presque. Dans les 50s, le joli drame d'être une femme. Femme dans les années 58, mais femme jusqu'au bout du scotch weed, ayant réussi l'amalgame de la résilience et du charme. Femme des années 58, qui épluche des carottes ou des frites, qui doit tout laver sans vacarme, et le soir être la plus belle des femmes. Femme boniche, jamais patron, qui passe son temps à la maison. Femme avec une coupe vraiment désuète, comme une choucroute avec certaines. Aujourd'hui c'est plus que limite, femme des années 58, mais réalisons qu'à des endroits, c'est toujours ça, voire pire que sa femme, être une femme. Ouais, je suis fan de vous et c'était mieux demain. D'ailleurs, du coup, vous voulez pas revenir demain. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
C'était mieux avant de la.
Ce sera bien, ce sera bien le 1er avril au Folies Bergère.
J'ai adoré.
Très bien. Oui, une chanson sur mesure, Elsa. Parlons donc de ce voyage dans le temps.
Oui, parlons-en.
Parce que on parle de l'électroménager comme une révolution. C'est à cause ou grâce à l'électroménager, électrocuté une machine à laver qui débarque dans le sous-sol, qu'elle cache à son mari, qui sont électrocutés et transportés dans le temps. Alors au niveau de des âges des uns et des autres, on va dire qu'on change de. On est dans une faille spatio-temporelle.
Absolument.
On n'est pas exactement dans le même rapport.
Complètement.
On est d'accord.
Ça fonctionne en 50, on va dire.
Elle se prend un choc et surtout, elle découvre que lorsque son mari lui disait mais une femme, elle est faite pour nous sustenter, pour rester à la maison et faire la cuisine. Et on la voit plutôt épanouie, elle est heureuse d'être.
Alors, moi, je me suis dit qu'elle était. Ouais. C'est mon petit bémol, je me disais, voilà, elle fait la chose comme il faut, elle lave, elle
revenons repasse. Revenons à la cuisine.
Elle est dans la cuisine.
Non mais elle fait avec.
Elle fait avec, voilà, c'est exactement ça. Elle est heureuse parce qu'elle sait pas qu'il y a un ailleurs. Ouais. Enfin, on va dire ça pour les femmes. Elles avaient après, ça leur prenait un temps fou, elles avaient aucune liberté pour elles.
Ouais, le linge.
Et je me suis imaginé, moi, qu'elle rêvait de gagner dans son cadeau bonus cette fameuse machine à laver.
Ouais.
Qu'elle va finir par gagner. Et c'est vrai que la grand-mère de la réalisatrice, elle me racontait qu'elle demandait à sa grand-mère c'est quoi la plus grande révolution. C'était la machine à laver.
Ah oui.
Parce que sinon, c'est ton temps à passer du temps pour nettoyer, laver, s'occuper des autres et pas même prendre un livre ou quoi que ce soit.
Ouais.
Donc l'épanouissement de la femme passe aussi par là. Voilà.
Est-ce qu'en travaillant et justement en vous intéressant à ça se passait comment pour les femmes au foyer dans les années 50, vous avez halluciné de certaines choses ou vous le saviez?
Ben, Non, c'est vrai, je savais pas. Vous avez appris des trucs comme ça. Ouais, ouais, carrément.
Qu'est-ce que vous ne saviez
comme
pas?
Mais non, mais le linge de machine pour enlever la
pour essorer.
Saleté. Ouais, oh. Pour enlever la saleté. Tu essores comme ça.
Ah, c'était les rouleaux. Alors ça, c'était
pour gratter. C'est hyper. Moi, je l'ai fait en vrai. Faut avoir des muscles, hein. Non, non, c'est assez dingue. Voilà. Après, ils ont quand même
l'aspirateur. C'est vrai qu'elle lui dit. Et on voit dans la bande-annonce, elle dit quand lui dit mais je pars, je vais au travail pour ramener de l'argent qui nourrit la famille. Elle lui dit tu vas te calmer, tu vas pas non plus chasser l'ours.
Voilà.
C'est-à-dire que quand se comporte comme un homme
des cavernes. Quand elle commence à se rebeller un peu, elle lui dit ça va, tu as pas la chausse à l'ours tous les matins. Mais heureusement qu'elle se rebelle un peu. Mais dans son œil, dans son cœur, je me dis qu'elle rêvait d'un ailleurs, quand même, d'un petit peu plus de liberté.
Alors justement, on va en parler jusqu'à midi et demi. Lisa Delmoitié, elle n'aurait pas fait un film comme ça. Vas-y, Lisa Delmoitié. Vous auriez pu faire un film sur l'engagement féministe, Lisa, mais vous ne l'avez pas fait comme ça, non?
Non, non, mais déjà, ça ne m'arrivera jamais de voyager dans le futur grâce à une machine à laver magique. Je vais la laverie. Voilà. Cela dit, j'adorerais voyager dans le futur. Je ne suis pas pessimiste, moi je trouve que dans l'ensemble, on progresse. Et puis à choisir, je préfère voyager dans le futur que dans le passé. Je peux vous garantir que le jour où quelqu'un inventera la machine à remonter dans le temps, ce sera un homme. Hein. Blanc, de plus de 50 ans. C'est vraiment clair. Le seul qui a intérêt. Ce sera Daniel.
Daniel.
Voilà. Le seul nostalgique. Non, moi ça va, j'aime assez bien les 30 dernières années sur les 3 millions d'autres, parce que j'ai le droit d'avorter déjà, c'est quand même pas mal. Ça dépanne. Droit à la carte de banque aussi, j'avoue, ça me régale la carte de banque, avec le sans contact en plus. Ah, c'est belge.
Carte bancaire.
Carte bancaire.
On avait compris, carte de banque.
Qu'est-ce que je veux leur dire? Je rentre en Belgique. Bon, et avoir sa carte bancaire aussi, j'avoue, ça me régale, avec le sans contact en plus. Quel kiff de se ruiner sans toucher.
Oui.
Ça rajoute un truc. Hein. Mais c'est vrai, ce film et votre personnage, Elsa Zimmerstein, c'est une ode au progrès de la condition de la femme et pardon mais aussi donc on l'a dit une ode à la machine à laver quoi. Quel gain de temps ma grand-mère elle devait laver à la main. Moi j'ai la chance d'avoir gagné 3 heures par semaine pour enfin aller sur TikTok. Va changer le monde quoi. Bon je dis ça mais en effet je vais à la laverie. J'aime bien les laveries, il y a une ambiance toujours un peu déprimante, un peu mélancolique. Puis il y a deux équipes, il y a ceux qui rentrent chez eux et ceux qui restent le temps du cycle. On dirait moi qui attends désespérément mes règles. Sauf qu'à la fin, la laverie, c'est propre. C'est un peu relaxant, la laverie. Tu regardes tes vêtements se faire retourner à 1000 allures. T'as l'impression de te voir, toi, dans la société contemporaine. 3000 tours par minute. Wesh, c'est Whirlpool, mon système nerveux. Quel gain de temps pour les femmes, la machine à laver. C'est pas anodin, c'est symbolique. Moi, je fais tout pour gagner du temps chez moi, tout le temps. J'ai un air fryer, déjà, bien sûr. Mais parfois, j'ai même la flemme de mettre de la bouffe dans le air fryer. Donc maintenant, je dis à tout le monde que je suis crudivore. Voilà. Les gens pensent que je suis saine parce que je mange plein de salades, mais je suis pas saine, j'ai la flemme. J'ai pas de cholestérol par paresse. J'ai une quelqu'un ou quoi? Bon, ça dit, je me fais beaucoup de planches apéro aussi. Celui qui me dit que le saucisson fromage olive, c'est pas un repas, il va se faire foutre. C'est tout, c'est ça la chute, il va se faire foutre. Voilà. Okay. Je dis à tout le monde que j'adore le steak tartare aussi, et c'est vrai, mais je crois que ce que je préfère dans le steak tartare, c'est qu'il faut pas le cuire. Quoi. Vraiment, c'est une parenthèse, mais c'est un truc bizarre chez moi, qui doit sûrement s'expliquer biologiquement, mais j'ai été végane à une période de ma vie, et depuis, j'adore la viande crue. Et je crois qu'en fait, juste trop pas écouter mon corps à qui ça manquait, je me rattrape avec des goûts chelous. Un peu comme les prêtres qui se privent trop de sexe. Et
oh
puis,
non oh
Je trouvais que c'était une bonne comparaison.
C'est pas mal.
Voilà. Franchement, quand tu vois la vie des femmes dans les années 50 à passer leur journée aux tâches ménagères, tu dis que le mariage à l'époque, c'était quand même un peu beaucoup pouvoir coucher avec ton esclave. Hein. Attention Daniel, tu baves d'envie là. Non, ouais, maintenant c'est tellement mieux, les femmes ne doivent plus laver à la main. Elles ont la machine à laver, ce qui veut dire qu'elles ont enfin le temps d'aller travailler. Ce qui fait que le mariage aujourd'hui, enfin, c'est coucher avec ton esclave qui ramène du pognon.
C'est ça. C'est ça.
Elle est pas mal l'ami. Ah, c'est tout, je suis de la chronique. Flemme, le pire, je demanderai à un homme de l'écrire.
Ouais, merci. Voilà.
Sur France Télé, Remontada, le spectacle de Lisa Delmoitié sur francetv.fr.
C'était mieux demain, le film est réalisé par une femme, Vinciane Milrault. Est-ce qu'elle vous a présenté justement ce film comme une comédie, mais comme un combat aussi sur la condition
Non, elle ne me l'a pas présenté comme ça. C'est quand je l'ai lu, j'ai pensé, je me suis dit, tiens, je vais faire mon Barbie à moi.
C'est vrai?
J'ai pensé à Barbie, même si ça n'a rien à voir, mais je vais expliquer pourquoi. Et à Retour vers le futur, même si ça n'a rien à voir, à part le voyage dans le temps. Oui. Je me suis dit, c'est une femme qui va traverser deux mondes, la fracture temporelle, on va dire, avec la métaphore de la machine à laver, mais elle passe des années 50. Boum ! Une espèce de voyage en 1h40 de 70 ans avec l'évolution de la femme et tout ce que ça peut comporter. Je me suis dit, mais quel scénario génial. qu'est-ce que, enfin, on reçoit rarement des scénarios pareils.
C'est un vrai sujet de comédie.
Et en même temps, il y a du fond.
Et en même temps, voilà, exactement.
Et ce qui revient, voilà, on vient de faire 30 dates de tournée province, on a fait plein de salles et tout, c'est que les gens rient, ils m'ont dit, ah, on apparaît comme ça depuis 20 ans, et en même temps, à la fin, ils me disent, on est tellement émus. Donc c'est ça qui est réussi vraiment dans le film, c'est que les personnages, au travers de ce voyage dans le temps, ils vont se reconnecter, évoluer, parce qu'ils sont dans des espèces de codes de l'époque, et du coup ils vont aller l'un vers l'autre mieux, et puis elle va évoluer, et puis surtout ce qui était bien écrit aussi, c'est que au départ quand elle arrive en 25, elle a peur de cette liberté. Comme je dis, on est des fois accroché à notre petite dictature, dans le fond ça fait peur d'être libre, elle a envie de rentrer. Elle comprend rien. Imaginez si nous on était catapultés dans un autre monde. On dirait mais non, on veut revenir. Donc ça c'est assez bien fait. Et effectivement les droits de la femme, je trouvais, moi j'y ai pensé quand j'ai lu le scénario, bien j'ai sûr. Dit waouh c'est génial par rapport à ce que va vivre une femme des années 50 ou 2025. Et puis qui n'a pas rêvé, pour revenir à ce que vous disiez, d'avoir une machine à remonter le temps à un moment de dire je passe une journée dans telle ou telle époque. Il y avait un petit peu de ça dans le
film. Et puis surtout je passe une journée avec les gens qui ne sont plus là. Exactement. Je retrouve, c'est surtout ça le lien le plus fort finalement. Ce qui est intéressant avec votre personnage, que c'est pas tant l'émancipation de la femme qui l'intéresse. Quand elle est au contact de ça, elle se rend compte à quel point c'est intéressant et vertueux, bien sûr, d'une certaine façon, mais c'est pas ça le sens premier qu'elle donne à ce voyage.
Bah elle va, je vais pas tout dire, mais elle va retrouver des gens qu'elle aimait. Oui. Et donc elle aborde plein de sujets très profonds.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des gens que l'on perd, pardon, dans la vie, et de voyager dans le temps permet de les retrouver.
Exactement, voilà. Parce que aussi les progrès de la médecine, elle aborde beaucoup de sujets très profonds de société et humain. Et ça, c'était assez rare dans une comédie. Et je dis toujours, les grandes comédies, c'est des drames à la base. C'est avec un fond très profond. Et voilà, donc j'étais vraiment bluffée de l'écriture. C'est Julien Lambroschini et Vinciane Milhaud. Julien, il a écrit Le Grand Bain et L'Amour Ouf.
Okay.
C'est vraiment un super scénariste. Et je trouve que le mélange de ce qu'ils ont, enfin, ce que j'ai lu, était assez hallucinant. Faire couple avec Didier Bourdon, c'était un bonheur. Et l'évolution.
C'est pas la première fois.
De faire couple avec lui, si. Mais
de vous retrouver à l'affiche. En
on était dans Natacha Hôtesse de l'air, on avait une mini-scène ensemble. Ouais.
Il y a évidemment tous les ressorts comiques, notamment la découverte de la carte bancaire, la découverte du téléphone, du FaceTime, enfin du Zoom, je ne sais pas comment le qualifier, de dire.
Mais du robot aspirateur.
Il y a des images, voilà, c'est ça. Il y a des images. Lorsqu'il résume l'actualité du monde par la télé-réalité, le bain à bulles, on a marché sur la Lune, et puis il y a Kevin qui a quitté. Non, c'est extrêmement drôle parce que, en fait, on voit aussi la masse d'informations et de sources qui arrivent à une personne qui, d'un coup, a voyagé, dans le temps, qui s'est pris 60 années, voire plus dans la tête, et qui essaye de gérer. Exactement. Malgré tout, avec ses repères.
Oui, exactement. En fait, on est des personnes des années 50 qui arriveront dans ce monde-là. Donc, on est hallucinés, éberlués, et c'était intéressant de jouer ça. Parce que le film n'est pas du tout dans la caricature. On est totalement.
Dans l'exagération, quand même.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans le jeu, on est vraiment. Mon personnage, elle fond en larmes quand elle découvre que sa fille vit ça et ça et ça.
Elle découvre déjà, pardon, elle était une femme au foyer qui se découvre patronne.
Ouais.
Donc déjà,
sa version d'elle-même, comme dans Retour vers le futur.
Quand elle tape à l'ordinateur avec ses deux index.
Ouais, c'est très drôle.
Ça, c'est extrêmement drôle. On est dans une caricature, c'est-à-dire le côté.
Je vois ce que vous voulez dire, oui.
La femme, c'est pas se servir d'un ordi.
Je vois ce que vous voulez dire.
Avec sa coiffure, sa tenue. Ouais. J'imagine quand même corporellement, vous tenez d'une manière.
Dans les années 50, je suis un peu contrite, je suis empêchée dans des petits costumes très serrés. Ouais. Je faisais des petits pas. Elle est empêchée, vraiment. Elle n'est pas épanouie. Oui, et petit à petit, mon corps se libère, elle danse, elle prend l'espace,
elle se donne la fessée sur des chorégraphies, endiablée,
elle boit, elle devient
alors ça dure une demi-seconde, Nagit.
C'est dans la bande-annonce.
C'est
le côté, je me lâche.
Je me lâche, je vis, je suis moi-même, c'est une version d'elle-même, version 2025.
Qui n'est pas dans la
retour vers le futur. C'est une version d'elle-même qui hallucine d'être patronne.
Il y a le rapport aux enfants aussi.
Le rapport aux enfants qui est très beau, leurs enfants qui ne sont pas les mêmes. C'est, ça leur permet eux-mêmes d'évoluer par rapport à leurs enfants, par rapport à certains thèmes, par rapport à leur inclination. Je trouve que, voilà, ce que je disais, dans le fait que le film soit assez profond, dans les thèmes abordés, c'est une réalité. Après, elle s'amuse dans la comédie à pousser certains traits, en effet.
Il y a des situations qui sont socialement, qui ont évolué aussi, notamment le côté mère-enfant, c'est-à-dire que l'une des enfants tombe enceinte. Comment gérer
le déshonneur.
Oui, ce qui est un cataclysme dans les années 60, qui est un truc à gérer aujourd'hui.
Voilà, il y a l'avortement déjà aujourd'hui. Voilà. Alors qu'il n'y a rien, et c'est surtout.
Non, mais il y a la honte, la honte sur la famille.
Et ça, c'est très bien montré.
Une belle séance de claque dans la gueule qui dure un long moment, qui est très drôle.
Donc, ça, c'est vraiment bien montré l'évolution des mœurs, l'évolution des candidatons, la peur de l'autre, la peur du voisin, qui va juger. Tout ça, voilà. Après, il y a aussi, elle aime bien dire, tout n'est pas à jeter en 50, tout n'est pas bon non plus en 2025. Le film n'est pas manichéen. Je trouve qu'on dit qu'il y a des jolies choses dans chaque époque. Les réseaux sociaux, qui sont aussi un petit peu des monstres aussi, une manière de nous envahir. Comment elle comprend rien à ça?
Bah, il suffit de la voir au travail, voir à quel point c'est une patronne détestée.
Voilà.
Qui vraisemblablement se comporte assez mal, en réalité.
Oui, exactement.
Voilà, même avec ses consoeurs.
Oui.
Là aussi, il y a une critique de l'époque.
Exactement.
On en parlera avec Irène Théry, qui est notre invitée tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas non plus un film du « C'était mieux avant ».
Non.
Le titre d'ailleurs du « C'était mieux demain » joue avec ça.
Il est bien le titre d'ailleurs, je trouve.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas une option qui est choisie. Il y a simplement une photo qui est offerte.
C'est exactement
avec
ça.
Une évolution de ce qui a pu être vécu en 58 ou dans les années 60, de ce qui se passe aujourd'hui, mais sur justement le look, les couleurs, même la couleur du film évolue avec...
Oui, elle a changé les couleurs, elle a le look...
La chroma est totalement poussée à l'extrême dans les années 60.
Et c'est son premier film, je tiens à le dire, parce que c'est impressionnant, elle a vraiment fait un petit bijou. Elle est actrice, Marciane aussi, et vraiment, elle a fait un travail incroyable. Sur les... Très à l'américaine, quand même, le dire, sur le look du film au début. On pense aussi à Truman Show au début, dans ce petit monde un peu factice.
C'est vrai, tout à l'heure. Ouais. Hein, mais vous avez bossé le rôle comment, vous?
Ah bah comme je fais d'habitude beaucoup,
C'est-à-dire, vous êtes documenté, vous avez lu,
j'ai regardé les images, les femmes, je me suis un peu renseignée. Effectivement, vous disiez, est-ce qu'elle se plaint? Est-ce qu'elle est heureuse de ça? Ma question, c'est, est-ce qu'elle a des rêves? Oui, elle le fait, mais il y a quand même des rêves, toujours, forcément. Est-ce qu'elles aiment être enfermées dans le ménage, la maison? Oui et non. Elle rêve de gagner cette machine parce qu'elle se dit « je vais pouvoir avoir du temps pour moi ». Elle rêve peut-être d'un ailleurs. Elle a accepté sa condition de soumission parce qu'il n'y a pas l'avortement, il n'y a pas la carnet de chèque, il n'y a pas la liberté d'aller vers un ailleurs. Donc ça, c'est intéressant. Cette condition de la femme m'intéressait, ça m'intéressait de parler encore de ça, puisque c'est ça beaucoup qui m'intéresse souvent, la condition des femmes.
Non, puis il y a même une critique aussi du moment de ce qu'on est en train de vivre avec la domotique, avec le tout connecté, avec ça aussi on le voit dans la bande-annonce, dès qu'un mot est prononcé dans une cuisine, la machine se met à faire du café.
Exactement.
Alors que, spécialement, il faudrait que tu le vois, Julien Santini, le film, tu vas aimer. Vraiment de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans un excès?
Dans une folie.
Parce que ce qui pourrait être une parodie ou un sketch peut sembler vrai.
Oui.
On a tous vécu de discuter d'un sujet autour d'un téléphone posé sur une table.
Et de
recevoir derrière des mails en disant vous voulez acheter ce produit ou pas.
Mais bien sûr, c'est la folie du petit monstre, je dis des fois, qu'on adore, on est tous connectés, on est accro à ça, mais en même temps, des fois, il faut faire des pauses, et ça montre ça, ou comment on devient un bébête devant un truc de télé-réalité, un peu, et comment lui découvre ça. Donc ça, c'est assez génialement montré, je trouve.
Elsa Zieberstein, Didier Bourdon, avec Mathilde Leborgne, Maxime Foster, Romain Cotard, Barbara Chanu, Céline Führer, François Perrache, Esteban Delso, je fais exprès de nommer ces acteurs, parce que on a le sentiment que Vinciane a voulu aussi donner la chance à des acteurs que l'on ne voit pas beaucoup.
Ouais.
Je n'ai rien contre vous, Elsa, ni contre Didier, ni contre Aurore Clément et Didier Flamand qui sont également présents.
C'est vrai qu'on vous voit beaucoup.
On voit cet équilibre presque 50-50 entre des acteurs à notoriété et des acteurs qui font peut-être leur premier film.
Des acteurs de théâtre aussi beaucoup. Elle tenait beaucoup à ça, que pour les seconds rôles, il y ait des gens qu'on ne connaisse pas forcément, pas connotés.
Et elle, c'est son premier film.
Et c'est son premier film à Vinciane.
Vinciane Milrobin, bravo. Ça s'appelle C'était mieux demain et ça sera mercredi au cinéma. Voici Julien Santiqui.
Bonjour, bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis quelques temps, je prends des cours d'anglais pour préparer mon acting à l'international.
Oh wow.
Et qui se trouve en ce moment aux côtés d'Omar Sy dans French Lover.
C'est toi.
Voilà, petit message que je fais passer auprès d'Elsa Zilberstein. Mais nous ne sommes pas là pour parler de moi. Même si ça serait pas forcément moins intéressant que certaines émissions. Nagui, tu me parlais encore ce matin de ta déception.
Moi, je t'ai parlé, moi.
Oui. Tu m'as parlé de ta déception lors de la dernière venue de Pierre Arditi. Mais bref, je travaille beaucoup mon anglais. Je vais être honnête, j'ai encore aucune proposition à l'international, mais je sens que je progresse, la preuve. La dernière fois, j'étais sur une date de tournée, je suis au petit déjeuner, je suis tout seul, et il y a une dame, il faut préciser qu'on est dans un pays où on ne parle pas français, on parle l'allemand, et je respecte énormément cette langue, même si c'est une langue qui me tend. Et pas que pour la demi-finale de Séville en 82. Mais le problème, c'est que pour moi, l'allemand, c'est vraiment les films sur la Seconde Guerre mondiale. Et je suis très sur le qui-vive. Du coup, mon cerveau a switché lorsque la dame m'a simplement demandé de dégager de la salle du petit déjeuner pour une raison que j'ignore. Surtout que je n'ai pas comprise, étant donné que c'était en allemand. Scheiße ! Et là, je me suis chauffé. Merci Daniel, c'est le seul, mais on l'accueille. Je me suis chauffé, je suis allé voir le responsable et je l'ai enchaîné en anglais. Donc, je me rappelle, il s'appelait Gunther ou Franz ou Goebbels, ce chien ! Donc, dans ma tête, je me suis dit honnêtement, pardon, mais tu mérites. Et je vous jure, je lui ai dit quelque chose, mais comme ça, je vais vous le dire en français. Écoutez, c'est un scandale, il est 10h17. Dans quel endroit du monde on vire quelqu'un du petit déjeuner à 10h17, sachant que c'est l'heure du petit déjeuner? Et j'ai failli enchaîner avec l'ami de Harry Corée, mais il n'aurait pas eu la ref, ce con. Il faut imaginer que dans ma tête, tout ça, je le traduis littéralement en anglais. Et vraiment, à ce moment-là, putain, je me sens fort, je suis chaud bouillant, je me dis, what the fuck, les cours d'anglais que je prends, commence à payer fort. Seulement, ce que je savais pas, c'est que j'ai un pote, Anthony, qui filme mes dates de tournée, qui a filmé l'altercation. Il m'a montré la vidéo roulement de tambour après, et à ce moment-là, j'ai juste vu un mec qui dit « What do you want? Me to go back to my place? Go back to France? » Jacques Chirac forever. Jacques Chirac, mangez des pommes. Donc voilà, c'était bah pareil, c'était ridicule. J'ai parlé d'Anthony et ça ne vous a pas passionné. Autre anecdote avec Anthony. On était garé en bas de mon immeuble derrière une voiture. Ça n'a rien à voir. Et juste devant nous, il y a un gars qui ouvre les portes de son berlingot, mais il est physiquement vraiment à 2 cm du capot de ma bagnole. À tel point... Qu'est-ce qui se passe, Elsa? Je t'aime. Et à tel point que je lui dis « Pardon, monsieur, mais est-ce que vous me voulez est-ce que vous voulez que je recule un petit peu ?» Et il me répond « Non, non, aucun souci. » Et vraiment, il affiche une sérénité et un état de quiétude saisissant pour quelqu'un qui a 2 cm de mes pneus avant. Me voyez-vous seulement venir? Moi, à ce moment-là, j'annonce « Je m'en veux hein, ». Mais vraiment, je m'en veux, mais j'ai eu cette pensée au sujet du gars du berlingot. Tu ne le sauras peut-être jamais, petit gars du berlingot. Mais dans ma tête, si je veux là, je peux littéralement te broyer les deux jambes. Et il faudrait pour cela que j'accélère, ce qui serait un acte de psychopathe. Acte que je n'ai pas commis, mais pensée que j'ai eue. À ce moment-là, j'ai raconté à Anthony ce à quoi j'avais pensé, et sachez qu'Anthony a éclaté de rire. Donc moi, je ne sais pas si je suis un psychopathe, mais Anthony, lui, l'est totalement. Alors franchement, j'insiste sur le fait que je ne l'ai pas fait, donc quelque part, on s'en rend peut-être pas compte, mais je lui ai quand même sauvé la vie. Que je pose autour de la table aujourd'hui, est-ce que la personne m'a seulement dit merci? Pensez-vous, l'ingratitude des gens, c'est un vrai sujet qui mériterait aussi sa chronique. Pour rester dans la même thématique, ça me fait penser qu'un jour, je dormais, et ma femme dormait à côté. Et elle ne le sait pas, mais pareil, je me suis dit, mais techniquement, si je mets un oreiller sur sa tête...
Non.
Et non, non, sachant qu'on s'était même pas disputé. Hein, et naturellement, je me suis pas bien senti je me suis senti pas bien de penser ça. Du coup, j'en ai parlé à mon meilleur ami. Ouais. J'ai la chance d'avoir un pote que j'adore, et je lui ai dit, non mais honnêtement, dites-moi si je suis un psychopathe, hein, vraiment.
Oui.
Et il m'a répondu, bah lui il a dit, vous savez monsieur Santini, pas du tout, vous avez fait l'expérience de la toute puissance. Et ça m'a soulagé. Du coup, comme je savais que j'allais faire cette chronique ce matin, hier j'ai été honnête, j'ai prévenu ma femme. Je lui ai dit, voilà, il faut que tu saches l'histoire de l'oreiller, t'as le droit de me traiter de psychopathe, mais voilà, je te le dis. Et elle m'a répondu, je vous jure que c'est vrai, tu me rassures, parce que moi, je pense à ça tous les jours avec toi. Je m'appelle Julien Santini et je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci.
Il est sur scène.
Le psychopathe.
Ah oui.
Il est sur scène, le psychopathe. Il est ce soir au théâtre de la Gaîté Montparnasse. En tournée, il sera demain à Montoire de Bretagne. Le 11 octobre, c'est à Aubervilliers.
La bande originale du film, c'était mieux demain. Le film sortira le 8 octobre au cinéma.
Il faudrait une femme pour transformer votre vie.
C'est beau.
Vous pensez que c'est une chanson, cette chanson existe vraiment.
Une petite femme chez vous.
Bah on dirait la voix d'Elsa.
C'est pas une parodie.
Plus jolie.
Petite femme, ça me tue.
Petit bout de femme.
Ça dit, il y a un retour à la tradoie.
États-Unis.
Mais justement, c'est ce que disait Lisa. C'est-à-dire que c'est aussi ces femmes qui constatent qu'on attend d'elles d'aller au travail. Elles reviennent à la maison, elles font une double journée. C'est une arnaque absolue. Donc elles se disent, bah, je vais rester à la maison. Je vais choisir un compagnon qui gagne très bien sa vie. Et puis comme ça, je vais m'occuper du foyer.
Mais elles ont développé beaucoup de compétences.
Faut que t'arrêtes.
Je dégage, je dégage.
On va... Mais c'est-à-dire qu'on va passer de la gêne au Roger. Elsa Zilberstein, notre invitée. Nous parlons de C'était mieux demain, le film de Vinciane Milhaud. Nous recevons Irène Théry, qui est directrice d'études à l'ESCTR, l'École des hautes études en sciences sociales, sociologue du droit, de la parenté et du genre, et qui a signé aussi, moi aussi, pardon, la nouvelle civilité sexuelle. On parlera de l'évolution de la condition des femmes à travers les années. Mais d'abord, la musique dans votre vie, Elsa Zilberstein. On va commencer par écouter... On est en 91. Les Doors. Pourquoi les Doors avec L.A. Woman en 91?
Parce qu'en fait, j'étais au cours de théâtre. Je crois que je venais de faire le Van Gogh de Piala. Et un copain m'a emmené à New York. C'était pas cette chanson-là. Et il y avait un sentiment de liberté absolue. Je me suis retrouvée à New York dans une voiture avec les Doors et une sorte de sentiment vraiment de me dire waouh.
Et ça, c'est une histoire d'amour. Quelqu'un m'emmène à New York, c'est...
Non, lui, il voulait, mais moi, je voulais pas, donc...
pardon, je croyais que c'était un...
Non, on était copains, mais j'ai eu ce sentiment-là incroyable.
Je vais expliquer le consentement et...
ouais.
Non
oui, je lui ai expliqué, ouais, ah, oui. Je lui ai expliqué avec un peu un...
Un point dans la gueule.
Un point dans la gueule.
Ouais, mais c'est la explication. Ouais. Julien, voilà. D'ailleurs.
T'as cicatrisé depuis Julien.
Ça tombe extrêmement bien par rapport aussi au sujet du
coup. Ouais, c'est vrai.
Le consentement.
Ouais, c'est fou.
Notion qui n'était pas imaginable.
Non, c'est même battu ce jour-là, je crois bien.
Oh, waouh.
Ah, au moins, là où j'avais vraiment expliqué le principe du
consentement. Voilà. Et j'ai quitté l'endroit d'ailleurs, et je me suis retrouvée avec ma valise dans la rue. Et je suis allée à l'hôtel. Bref, néanmoins, ce sentiment-là de liberté...
Je suis désolée d'avoir soulevé
C'est pas grave. Bah oui. Et du coup, c'est vrai que ce sentiment de liberté dans une voiture avec les Doors, je sais pas pourquoi les Doors me sont restés toujours comme l'Amérique, le voyage, la liberté.
Une véritable révolution, les Doors, clairement.
Et à cette époque-là, c'est Piala qui change votre vie. Oui. En fait, vous devez faire une silhouette, je crois, sur Van Gogh. Oui. Et en fait, l'histoire est complètement folle, vous vous retrouvez à incarner le premier rôle.
Non, pas le premier rôle, le rôle de la prostituée d'Arles.
Qui vous vaut une nomination au César, quand même.
Absolument. J'étais donc dans l'herbe, assise comme ça, je me rappellerai toute ma vie. Je faisais une silhouette et on m'a dit, la fille qui jouait la prostituée, il vient de la renvoyer et il va choisir quelqu'un d'autre. On était quatre nanas assises dans l'herbe. Les autres ont dit, oh là là, non, on veut pas le faire. J'ai dit, non, mais ça va être moi. Non, mais je le sentais, je peux pas vous dire, j'avais envie d'être actrice. Donc... Et puis elle est arrivée, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit « N'apprends pas, c'est comme ça qu'on devient mauvaise ». Ça marchait pour lui. Hein. Et j'ai dit la première phrase et il m'a dit « C'est bon, t'as le rôle, va t'habiller ». Donc on m'a mis une robe rouge qui n'est pas faite pour moi, qui est trop grande. Je suis revenue sur le plateau, il m'a poussée, il m'a dit « Va dire ça à Dutronc ». Et j'ai tourné pendant un mois, et le film est allé à Cannes, et j'étais nominée au César.
C'est fou.
Et c'était la grande rencontre de ma vie. Il m'a donné la vie au cinéma, Piala. Et d'ailleurs, c'était beau, parce qu'il y avait une rétrospective à la Cinémathèque l'autre jour. Je suis allée présenter le film sur scène, et j'ai parlé de lui, et je me dis, waouh, mais quel génie de metteur en scène. C'est beau de commencer avec un homme comme ça, d'avoir touché à ça.
Il n'avait pas la réputation d'être facile sur un plateau de tournage, c'était le cas?
Moi, je dis, ce qui se passe sur un tournage reste sur un tournage, et c'était un grand metteur en scène, extraordinaire. Non, c'était vraiment quelqu'un d'incroyable.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui se passe sur un plateau reste sur un plateau?
Non, je veux dire, j'ai pas...
C'est la vie d'un plateau.
C'est la vie d'un plateau.
Je sais pas, il était comme il était, non ? Il était extraordinaire.
Quand vous avez dit il m'a poussé pour aller voir Dutron, ouais. Physiquement il vous a poussé ?
Non. Non, ça veut dire c'est symbolique quand je dis ça. Il m'a non, dit va lui dire ça. Non, pardon. C'est... Oui, à la radio on voit pas.
Non,
il m'a dit va dire ça à Dutron. Il m'a pas poussé. Non.
Ok. Est-ce qu'on se rend compte comment la vie peut basculer en quelques secondes ?
Moi, je me rendais très bien compte.
C'est vrai ?
J'ai appelé mes parents, j'ai dit c'est incroyable, je crois que j'ai un rôle dans le film. Après, je savais pas du tout ce que ça serait à la longueur.
Sur le temps.
Voilà. Ouais. Et puis quand j'ai vu le film, et c'est mon papa qui a vu le film en premier, et il m'a dit tu t'es pas trompé de métier. Voilà.
2009.
Mais dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ?
Ils étaient amis dans la vie, Jean-Louis Aubert et Barbara. Pourquoi cette version de « Dis quand reviendras-tu » ?
Parce que c'est Philippe Claudel, l'écrivain. Un jour, on discutait, il m'a dit que je pense à toi, je suis en train d'écrire un film. Enfin, on avait pas mal parlé de ça. Et puis, il a écrit ce magnifique film que j'ai fait avec Christine Scott-Thomas. Et à la fin, il y avait cette chanson.
Il y a longtemps.
Il y a longtemps que je t'aime, revisité par Jean-Louis Aubert. Et je l'écoutais en boucle quand je tournais le film et je trouve cette version merveilleuse.
Ça, c'est 2009. Ça vous vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Vous parlez de la relation que vous avez tissée avec Philippe Claudel. Est-ce qu'il y a des réalisateurs comme ça que vous aimez voir même en dehors des projets en se disant on va peut-être écrire un petit bout de chemin ensemble, pas maintenant, mais peut-être sur le prochain.
Ouais, comment on entretient ça ? En fait, je trouve que c'est fait que de rencontres, notre métier. Comme dans beaucoup de métiers. Hein. Je crois à la force de la rencontre. Je crois au hasard. Comme dirait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Quand je rencontre Jean Dujardin dans un avion et qu'on se met à délirer, à se dire on va tourner avec Claude Lelouch et qu'après il y a un film, un plus une, c'est beau de se dire si, tous les si de la vie me fascinent. Si on n'avait pas pris l'avion le même jour avec Jean, si on n'avait pas commencé à délirer, on a bu un verre de vin dans l'avion, Jean est fou de Lelouch.
Ce qui n'est pas bon. L'alcool et l'attitude, c'est pas
bon. Tout à fait. Mais, et à se mettre la musique de Francis Lai entre nous deux et d'écouter la musique d'un homme qui me plaît et de se dire ça serait génial de faire un film à deux personnages avec Claude Lelouch et le film est né comme ça.
Ah ouais,
tous les si,
bon.
Tous les hasards me fascinent. Ouais. Avec les réalisateurs, je trouve ça génial. Il y a une chose qui me fascine, c'est tu joues avec la personne que tu es, tu joues avec la femme que tu es. Parfois, tu n'es pas mûr pour un réalisateur. Ouais. Et peut-être 3 ans après, c'est le moment de tourner avec lui parce que tu as vécu ce que tu as vécu et dans tes yeux, il y a quelque chose d'autre qu'il a envie de filmer.
Vous croyez à l'autre ? Il faut que ce soit le moment aussi pour lui. Ouais, pardon, il faut que ça soit.
C'est ce que je dis
sens,
en fait. Ouais, complètement.
C'est le bon moment. Quoi.
Il te voit tout d'un coup de manière neuve. Il voit des choses dans toi qu'il n'avait peut-être pas vu avant. En fait.
Vous croyez à l'autosuggestion, à je sais pas comment dire, à projeter, à projeter quelque chose en disant ça va arriver si je le projette sans cesse.
Ah mais je crois mort en ça. Ah mort.
J'ai basé ma life là-dessus.
Non mais la puissance de la pensée, la pensée positive.
Et quand vous dites
les clés du secret.
Quand vous dites j'aime les rencontres. Est-ce que ça veut dire que vous cherchez systématiquement de nouvelles rencontres et que vous êtes curieuse de rencontrer des nouvelles personnes et d'aller peut-être même à des dîners, à des soirées en disant bah, je connais personne mais au moins je vais ouvrir mes capteurs, je vais voir qui je vais rencontrer, ou vous entretenez aussi des amitiés sur la durée?
Ouais, les deux. Je vais pas à des soirées en me disant que voilà, mais j'entretiens des liens.
Il faut être ouvert aussi à de nouvelles rencontres.
Ouais, mais je crois au hasard. Donc la vie fait bien les choses. Si tu dois rencontrer quelqu'un, tu le rencontres. Mais c'est vrai que c'est assez beau de se dire que oui, il faut être très disponible, il faut être ouvert à toute rencontre. Et puis il y a des metteurs en scène avec qui j'entretiens un lien. Comme ça, on sait pas encore, on n'a pas encore travaillé ensemble. Ça se fera dans le temps, peut-être.
2015, Elsa Zieberstein.
Te chercher.
Gilbert Bécaud, qu'on n'entend pas assez.
Je savais. J'adore cette chanson.
Voilà.
Que tu m'attendais. Ça, c'est avec Jean Dujardin en Inde. Jean, il écoutait en boucle cette chanson. Et je la connaissais pas.
C'est vrai ?
Non ? Et du coup, je me suis mis à être obsédée par cette chanson. Je la trouve belle. Et comme dit Jean ou Claude Lelouch, il dit souvent, c'est un petit court-métrage, une chanson. Et t'as un film entier, t'as un scénario dans cette chanson. Et j'adore.
Claude Lelouch, il a commencé à faire des scopidones, donc il y a des mini-clips,
exactement.
Des mini-scénars.
Ouais.
On parlait du bon moment pour travailler avec un réalisateur. Claude Lelouch, vous l'avez rencontré toute jeune au cours Florent, vous aviez 18 ans.
Ouais.
Racontez-nous cette rencontre très dans les couleurs des années 50 apparemment.
Ben, c'était dans les années 90, mais j'étais au cours et j'étais assise, il faisait des masterclass, et je me suis dit, mais je suis une actrice pour lui, cut. Mon père était physicien, et moi je connaissais personne dans ce métier, et papa me dit, écoute Elsa, au lycée, il y avait Claude Lelouch. Tu veux que je lui fasse une lettre? Bah, je dis pourquoi pas.
Qu'est-ce qu'on risque?
Ouais. Donc on fait une lettre à Claude Lelouch et on me convoque au bureau. Et donc je vais avec mon père au rendez-vous. Il se trouve que le week-end d'avant, je suis allée à la montagne avec ma meilleure amie, comme on a des bonnes idées à 18 ans, et je mets de la neige sur mon visage.
Pour bronzer?
En me disant je vais être bronzée. Alors que je ne suis pas bronzée, je suis comme votre micro, quoi.
Rouge.
Je suis rouge comme une pivoine. Je mets un chemisier orange, on ne sait pas pourquoi, ce jour-là. Et j'arrive au rendez-vous et c'est terrible, je me sens tellement mal. Et voilà, et il est très gentil, il me dit il faut 10 ans pour faire une actrice, mademoiselle, au revoir et merci. Non, il était absolument charmant. Et après, bon, j'ai commencé ma carrière, et après, on s'est recroisés plein de fois, on a dîné plusieurs fois ensemble. Ça s'est pas fait, et ça s'est fait parce qu'avec Jean, on a appelé Claude et qu'on lui a dit on prenait un vol Paris-Los Angeles. Je suis arrivée à LA, j'ai dit à Jean, tu veux qu'on l'appelle? Parce qu'on a parlé de lui beaucoup pendant le voyage. Et il m'a dit, ok, vas-y. Et j'ai appelé Claude Lelouch, je lui ai dit, voilà, je suis avec Jean Dujardin, on est à Los Angeles, on veut tourner avec vous, c'est où vous voulez, quand vous voulez, un film d'amour, basta.
Qu'est-ce que vous faisiez en Inde pour une conférence sur la transition énergétique, enfin, je veux dire, quel rapport?
Non, c'est après, François Hollande, dans un voyage présidentiel, m'a invité, vous voulez dire pendant le film? Après, non, on a tourné 7 semaines en Inde,
okay, d'accord.
Et un an après, ou même quelques mois après, le président m'a invité à venir en Inde.
En 2022, Elsa Zilberstein, vous écoutiez. Ces deux jeunes musiciennes qui ont remporté l'édition de Prodige, les sœurs Berthollet dans Oblivion, cette musique vous émeut particulièrement ?
Oui, j'adore le violon. J'ai une passion pour le violon et quand je travaillais sur Simone Veil, peut-être à cause des origines ashkénazes où le violon m'émeut beaucoup, ces sons slaves comme ça.
Le violon sur Comme toi de Jean-Jacques Goldman vous fait pleurer comme nous tous.
Voilà.
Bah, évidemment.
Donc, j'écoutais beaucoup ça et en me préparant, comme j'avais des longues heures de maquillage, même en préparation avant de rentrer sur le plateau, d'aller faire certaines scènes.
Donc, la musique vous aide à rentrer dans le personnage, dans l'état dans lequel il faut être.
Tout le temps. J'écoute tout le temps de la musique. Ça trouble beaucoup les autres. J'enlève les écouteurs.
Les ears.
Au moteur.
Ok.
Simone, le voyage du siècle d'Olivier Dahan, donc on parlait de ces destins de femmes, celles qui ont compté, qui ont changé la vie des autres en fait. Et c'est vrai que dans le film, on donne la possibilité aussi aux jeunes femmes de découvrir qui était Simone Veil. Je crois que c'est un film qui a eu beaucoup de succès chez les jeunes gens aussi. Je crois qu'il y a eu plus de 2,6 millions. Et beaucoup de jeunes filles, je crois, qui vous ont adressé des messages.
Ça m'a vraiment bouleversée, quoi. Des filles de 13 ans ou 14 ans qui, à cause de leur éducation ou culture, ne connaissaient pas forcément Simone Veil et qui m'ont écrit des messages en me disant ça nous donne des ailes, maintenant j'ai envie d'être avocate, j'ai envie d'être magistrate.
Génial.
Et je dis la puissance du cinéma, je dis des fois c'est politique le cinéma, que tu fasses une comédie, c'était mieux demain, il y a toujours un espèce de message sans le vouloir parfois, politique, le choix du film que je vais faire, la transmission m'intéresse et quand je fais Simone Veil, c'est vrai que c'est beau de voir que ça donne des ailes à certaines femmes, de se dire à une femme comme ça qui vient de l'enfer, qui vient de la noirceur, de l'horreur, comment elle devient ministre, comment elle transmet, comment elle bouleverse notre vie,
bah,
notre société.
Un environnement très hostile aussi.
Ouais, ouais. Elle se faisait
insulter. Elle se faisait insulter à l'Assemblée nationale quand elle passe la loi, et comment elle a résisté à tout. Voilà.
Mais l'enchaînement est tout trouvé avec Irène Terry. Bonjour madame.
Bonjour.
Bienvenue en milieu hostile.
Vous avez signé moi aussi la nouvelle civilité sexuelle aux éditions du Seuil. Simone Veil est l'un des moments clés, évidemment, de la condition de l'émancipation des femmes au XXe siècle. Quelles sont les dates essentielles qu'il faut que nous retenions et nous transmettions ?
Sur le XXe siècle dans son ensemble, vous savez, il est marqué par trois moments, deux guerres mondiales, et puis la révolution des mœurs des années 70. Alors, la Première Guerre mondiale, c'est très important, parce que vraiment, entre avant et après, quelque chose est bouleversée dans la condition des femmes par le fait que pendant la guerre, elles ont pris évidemment les commandes des fermes, elles ont travaillé
de
dans les
outils de la société, c'est ça,
l'industrie voilà. aussi.
Ouais, et beaucoup de choses, elles ont pris beaucoup de responsabilités. Alors après, elles vont revenir au foyer, si on veut dire à leur place, mais quelque chose est changé.
Enfin, à leur place considérée à l'époque,
parce que... à leur place traditionnelle, bien sûr. Voilà. Et donc là, vraiment, ce qu'on appelle les années folles, quand elles commencent à monter sur des bicyclettes, à se baigner à la mer, à mettre des pantalons, à revendiquer des droits, quelque chose change de très profond. Il ne faut jamais oublier que c'est entre deux guerres qu'on a les trois premières femmes ministres en 1936 dans le gouvernement du Front Populaire de Léon Blum.
Mais est-ce qu'il y avait à ce moment-là, du mot qui aujourd'hui veut dire autre chose, mais est-ce qu'il y avait des femmes qui influençaient, je ne veux pas dire donc des influenceuses, mais est-ce qu'il y avait des meneuses entre guillemets de ce mouvement?
Oui.
Par exemple, vous dites, elles se mettent à faire du vélo, à mettre des pantalons, à se baigner.
Il y a aussi la mode qui aide.
Bien sûr, ça a été très important.
Coco Chanel.
Bien sûr, le fait de porter des jupes plus courtes, ça change la vie. Ouais. Vous voyez bien dans les tableaux ce que c'était que les femmes engoncées dans des corsets, dans des vêtements, elles ne pouvaient pas bouger, etc. Donc, c'est vraiment des changements très importants avant la Deuxième Guerre mondiale, entre les deux guerres. La Deuxième Guerre mondiale, bon, maintenant, on redécouvre progressivement le rôle que les femmes ont joué dedans, qui a été longtemps occulté, mais c'est vrai que c'est une étape importante, puisque c'est en 1945 que nous, les femmes, nous acquérons le droit de vote. Donc, ça faisait des décennies et des décennies que c'était en discussion. Les républicains n'étaient pas très favorables parce qu'ils disaient les femmes, elles sont aux mains des curés et donc on n'est pas très pressé de leur donner le droit de vote. Mais enfin, il est accordé en 1945 et en 1946, la Constitution dit la loi garantit aux femmes, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes. Et donc, s'ouvre alors une période très paradoxale, dont on pourra reparler, la période 1945-1965, on a l'impression qu'il y a une sorte de régression, la femme au foyer, etc. Et par exemple, c'est vrai que l'année où il y a eu le plus de femmes au foyer, dans le temps long, c'est l'année 61. Donc une progression de la femme au foyer. Pourquoi ? Parce que pouvoir rester au foyer, c'était un privilège autrefois de la noblesse, de la bourgeoisie. Ouais. Et les classes populaires considèrent, dans ce moment-là, que pouvoir permettre à une femme de rester à la maison pour élever ses enfants, c'est un progrès.
D'accord.
C'est un progrès. Ouais. Okay. Mais en même temps, ces femmes qui ont considéré presque évident que c'était bien de rester à la maison, elles élèvent des filles pour lesquelles c'est évident, au contraire, qu'elles auront un métier. Mmh. C'est mon cas, d'ailleurs. Ma mère a fait des études et reste au foyer, et mes parents considéraient que leurs trois filles auraient des métiers. Mmh. Donc, c'est une génération paradoxale. Et donc, on arrive aux années 70, les enfants du baby-boom, les enfants, justement, élevés dans ces familles apparemment très traditionnelles des années 50-60, eh bien, ils accomplissent le féminisme qu'on dit de la deuxième vague.
C'est la congé maternité commence en 70 ?
Oui, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup d'autres révolutions dans les années 70, surtout dans le domaine de la famille. Mmh. On passe de la puissance paternelle à l'autorité parentale. Wow. La famille gouvernée par les deux parents. Okay. On passe de l'égalité des enfants à l'égalité des enfants naturels et légitimes, alors qu'avant, la mère seule, la mère célibataire et son enfant étaient considérés comme des parias. Mmh. Et même que l'enfant bâtard, jusqu'en très longtemps, n'avait pas de père, ne pouvait pas entrer dans la famille de sa mère. Donc c'était un des drames énormes du 19e siècle. 75, le divorce par consentement mutuel. Et évidemment, la loi Veil sur l'IVG. Donc c'est un moment très important que ces années 70 qui ouvrent une nouvelle phase. Et je dirais que si on peut mordre un peu vers le 21e siècle, ce qu'on vit depuis les années 2010, c'est vraiment... une troisième vague du féminisme autour de MeToo, avec
ce
continent des violences sexistes et sexuelles qui apparaît, qui est dévoilée.
Si on parle de l'avenir, quels sont les combats encore sur lesquels il faut veiller? Est-ce qu'il faut surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de régression, ou est-ce qu'il faut obtenir des choses en plus, voire les deux?
Les deux, mon général, je dirais, parce que d'abord... Bien joué,
il adore se ninguer quand on lui donne des
titres. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut avancer. Bien sûr qu'on a avancé sur énormément de choses, mais enfin, il y a encore des écarts de salaire importants. Des métiers féminins, des métiers masculins. Oui. Les métiers dits féminins sont souvent considérés comme moins valorisés que les métiers masculins. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut avancer. Bien sûr, les écarts de patrimoine hommes-femmes se sont aggravés.
Oui.
Ça, c'est un des points sur lesquels il y a encore très peu de conscience. Mmh. Les violences, bien sûr, je l'ai dit, la procréation médicalement assistée, etc. Il y a beaucoup de sujets. Et donc,
et les femmes femmes patronnes. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes patronnes aujourd'hui?
Un chef d'entreprise sur 5 est une femme. Un chef d'entreprise sur 5.
Et alors, comment expliquez-vous, j'avais vu ça aussi, ou est-ce que c'est vrai ou faux, que les femmes patronnes s'accordent un salaire inférieur à celui que les hommes patrons s'accordent?
Mais oui, c'est vrai. Et en général, d'ailleurs, quand dans les
entreprises, de soi.
Un certain secret est maintenu dans les grandes entreprises sur comment chacun arrive à négocier son salaire, les femmes s'auto-évaluent moins élevées que les hommes. Donc, par contre, ce que je pense, c'est qu'il y a des choses à faire, mais il y a effectivement un mouvement masculiniste aujourd'hui qui se développe avec l'idée que tout ce que nous les femmes nous avons gagné, les hommes ont perdu autant. Vous voyez, comme si c'était une sorte de mouvement, alors que je pense que chaque fois que les femmes gagnent quelque chose, les hommes gagnent
évidemment,
aussi.
Évidemment.
On change de système évidemment. Relationnel.
Bravo Irène.
Évidemment, bravo Irène.
Bravo Irène.
Moi aussi, la nouvelle civilité sexuelle aux éditions du Seuil. Merci mille fois d'avoir été notre invité. L'hommage du jour, c'est Emma Beaujean.
Ouais, Emma.
Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à l'argent. Je vous explique, moi ce que j'ai prévu c'est très simple, en fait je veux pas être riche mais je veux juste plus être pauvre. Ce que je veux dire c'est que bon bah quand t'es pas riche, ok t'as pas de jet ski genre, bon c'est pas très grave, mais quand t'es pauvre tu as pas de chauffage genre, tu vois la différence c'est pas pareil. En fait quand t'as pas de dents c'est difficile de croquer dans la vie. Moi je vous le dis, dans des petites périodes de ma vie j'ai eu déjà un petit peu d'argent, voilà, plus souvent quand même j'en ai pas eu et j'ai remarqué que les moments où je suis riche il passe quand même vachement plus vite que les moments où je suis pauvre. C'est vrai, alors on en vient à cet exemple, mais faire du jet ski, ça passe vachement plus vite que repeindre soi-même les murs du salon, tu vois. Et même activité identique, c'est injuste. Il y a certaines activités qui sont chouettes quand on est riche et tristes quand on est pauvre. Quand Gérard, riche PDG, a pris son après-midi pour boire une coupe de champagne au bord de sa piscine, on est d'accord que ça a quand même un peu plus de gueule que quand c'est Gégé qui commande une pinte à 14h au PMU du stade municipal de Douzillac. On est d'accord. Et j'ai l'impression que globalement, la vie, c'est plus savoureux quand t'as de l'oseille. En vrai, hein, mise en situation au restaurant, alors aujourd'hui, pour vous, en entrée, c'est le caviar, versus alors pour vous, en entrée, aujourd'hui, c'est le caviar de tomate. Là, c'est vraiment juste de la tomate. Pardon, j'en profite, dédicace à mes restaurateurs qui décident d'appeler caviar, un truc qui est littéralement de la purée. Voilà, ça suffit pas de changer les mots. Tu peux dire que t'es pas prêt à t'engager, Gabriel, que t'as pas de place pour moi dans ta vie, mais je sais que c'est pas ça le problème. Et t'as réussi à en trouver un petit peu de la place pour le gros cul de Juliette sur ton visage. Alors, l'argent, je disais, c'est la liberté. Par exemple, pour monter des projets, il faut de l'oseille, c'est vrai. D'ailleurs, moi, justement, je vais lancer un crowdfunding, un financement participatif. En fait, j'ai eu l'idée de faire mon premier film. Alors, le pitch est très simple. Allez. Un gros bateau qui cogne un gros iceberg et qui coule en plein océan. J'ai la vision. Alors, c'est un film français. Malheureusement, il n'y aura ni François Civil, ni Raphaël Quenard. Mais à part ça, c'est un film français. Et on aura besoin de 80 000 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup, 80 000 euros, mais dans le cinéma, c'est rien du tout. Pour vous donner un exemple, L'Amour Ouf, ça a coûté 30 millions. Pour vous dire, même Nagui, il n'a pas 30 millions sur lui. Avec tout cet argent, on va pouvoir acheter plein de choses. On va pouvoir payer les techniciens, payer les décors, on va pouvoir mettre le paquet sur le catering. Ça, c'est très important pour moi, vraiment, le catering. D'ailleurs, pour un des rôles, j'ai pensé à Catherine Deneuve. Non, je suis désolée, pardon, je me suis trompée, j'ai lu la chronique d'Oldelaf. Alors, il y aura évidemment des contreparties, comme dans tout financement participatif, pardon, en fait, c'est par échelon, comme toujours. Si vous donnez 5 euros, par exemple, vous aurez le droit à un bisou de toute l'équipe. Je parle de l'équipe du film, hein, pas de l'équipe de cette émission. Rassurez-vous, personne ne va devoir faire la bise à Daniel Morin. Pour 10 euros ou plus, je vous fais une petite vidéo personnalisée. Pour 20 euros ou plus, merci ma biche. Pour 20 euros ou plus, je vous fais une vidéo personnalisée de mes pieds. Pour 50 euros, je fais la babysitter. Si vous voulez, je l'ai déjà fait. Par contre, un conseil, avant de partir, comptez vos bouteilles. Et pour 100 euros, qu'est-ce que je fais pour 100 euros? Et ben, une chronique à la radio. L'argent, c'est un sujet tabou. Et je sais pas, c'est peut-être parce que je suis une enfant, genre, mais je comprends pas pourquoi c'est si tabou que ça, pourquoi ça dérange. Un jour, moi, j'ai un pote qui m'a prêté de l'argent quand j'en avais besoin. C'était pas tabou. Il m'a proposé, j'ai dit oui, ça m'a aidé, je lui ai rendu, basta. Après, attention, choisissez bien les potes à qui vous empruntez de l'argent. Pas sûr que Elise et Moon soient allés réclamer les 50 balles que lui avait prêté Dieudonné avant ses affaires. De la même manière qu'on a évidemment une petite pensée pour Gilbert, ce Nantais de 54 ans, qui un jour de printemps a dit, mais bien sûr, Xavier, que je peux te prêter 200 euros pour refaire ta terrasse. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour aider la petite famille du pont de Ligonnès. Non, non Gilbert, non. Dans tous les cas, moi maintenant ça va mieux financièrement, mais je pense qu'il faut surtout pas oublier que ceux que tu croises dans la montée, tu les croises aussi dans la descente. Et c'est à eux que je rends réellement hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
Et vendredi à 21h au Théâtre des Mathurins à Paris.
Tanguy Passureau, de quoi veux-tu nous parler ?
De l'acidification des océans. J'ai un ami qui a mis le pied dans l'eau récemment. Le pied a fondu.
Elsa Zieberstein, notre invitée, C'était mieux demain, sortira au cinéma mercredi prochain. La
bonjour.
Emma Bonjean, Lisa Delboisier, Julien Santini, Paul Delaf, Tanguy Passureau, Daniel Morin.
Coucou Lisa,
invité
Bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
58.
C'était mieux demain, le film, oui, en 58. C'est pas l'heure que tu donnes, c'est la période de ce film. En tout cas, le début du film, puisqu'il va y avoir une faille spatio-temporelle, un voyage dans le temps. Ce qui est extrêmement drôle dans cette comédie et de société et politique. Vous aviez raison tout à l'heure en le disant, Elsa, dès l'instant où on voit, où on a cette photo de l'évolution de la condition féminine, il y a forcément aussi une prise de position qui doit être faite en se disant, il y a eu des combats, il faut pas les oublier, sur le consentement, sur ce qui se passe dans un couple, sur la place de la femme dans la société, sur la famille, sur les enfants, sur le rapport aussi à la vie et au projet, sur est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux, est-ce que je vais pouvoir choisir mon mari, est-ce que je vais pouvoir garder ou pas un enfant, si je suis d'accord ou pas pour le garder. Des questions qui peuvent paraître totalement lunaires ou éculées, mais toujours d'actualité quand on voit que ça reste un combat, encore aujourd'hui.
Ça reste un combat et le film est très très drôle, tiens à le dire, parce que les gens en Provence... Là, les,
c'est une comédie,
vraiment. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un fond, c'est tout ce que vous venez de dire est juste, et c'est très bien décrit, avec un fond sociétal et une profondeur où on voit l'évolution des femmes et des hommes aussi. Le personnage de Didier Bourdon, comment il est désarçonné en arrivant en 2025, il ne trouve plus sa place.
Oui, mais sauf, ça, c'est que, joli sauf aussi. Qu'il peut passer pour une victime en disant, ouais, bah avant il était le seigneur et tout,
fini le monde autour. Fini les machos, stop, c'est bon, on prend notre place nous aussi. Et avec le retour du masculinisme aussi dans certains pays, je trouve que c'est un film intéressant par rapport à ça, ou même à la tried wife actuelle, le retour à la femme dans son four.
Oui, mais en début d'émission tout à l'heure, vous aviez évoqué avec Lisa et avec Leïla de dire, c'est vrai que certaines femmes se disent, tant qu'à avoir la double charge mentale de et je m'occupe de la maison et je m'occupe du boulot, puisque c'est ça, ok, très bien.
La différence, c'est qu'elles ont le choix. Oui, aujourd'hui,
c'est ça.
Quand elles peuvent. La différence, c'est quand t'as pas le choix, que tu dépends d'un homme et tu dis comment je vais faire, même pour économiser et m'en aller si je suis pas heureuse.
Mais ma question, c'était est-ce que ce mouvement vient de certaines femmes qui disent je choisis justement de trouver le mari qui va m'assurer entre guillemets mon train de vie et je reste à la maison, ou est-ce que ce sont des hommes qui se disent justement c'était mieux avant et qui forcent entre guillemets la main.
Ça, c'est l'éducation de certains hommes par les mamans. Ça dépend de ce qu'elles ont dans la tête, les femmes aussi, et par les papas. Ouais. Si en tant que femme, tu as envie de t'épanouir, de te dire, je vais aller à la fac, je vais penser, je vais écrire, je vais lire, je vais... Et en même temps, je fais...
Je vais créer
ouais, ma vie, au-delà de la vie de couple, d'être avec quelqu'un. Je dirais pas les mots, mais voilà, quand tu décides de te mettre sous la coupe d'un homme, je respecte ça, mais c'est aussi un choix personnel.
On peut décider d'élever ses enfants.
Oui, totalement.
Un choix très respectable aussi.
Et c'est tant un sacré reste boulot. Un choix. Ma maman, elle était à la maison, voilà. Je peux vous dire, il fallait le faire, le job.
Ouais. Tant qu'on écrit sa vie, qu'on la subit pas.
Voilà, exactement.
On est d'accord. C'est une comédie, mais qui donne à réfléchir aussi.
Mais c'est d'abord une comédie, et surtout une comédie.
Oui, absolument. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est pas une caricature. Il y a quand même des exagérations, et heureusement...
Elle s'est amusée avec la années 50, voilà. Et avec les progrès techniques d'aujourd'hui, elle s'est amusée avec les deux époques.
Elle, c'est Vinciane Milhaud, actrice et réalisatrice qui signe donc son premier film avec Elsa Zieberstein et Didier Bourdon. C'était mieux demain, sortira mercredi au cinéma. Voici Monsieur Tanguy Passureau.
Nous sommes des cons. Attention, je ne parle pas de vous en studio, en tout cas, pas tous, ni de notre invité. En fait, les amis, je vous adore. Je le découvre en live, en faisant cette chronique. Si ça continue comme ça, je vais finir par aller jusqu'à communiquer avec vous. Ce serait bien pour notre relation. Hold the Love, ça fait 4 guitares sèches que je lui pète en hurlant. Ça, c'est pour le petit pont de bois d'Yves Dutheil qu'on m'a obligé à jouer enfant et j'y arrivais pas. Il faut que je me calme. J'ai bientôt l'âge de Jean Castex. Il est temps que je mette cette rage au service de ma future présidence de la SNCF. Non, quand je dis que nous sommes des cons, c'est par rapport à la planète. Elle est belle, cette terre. Bien sûr, elle a généré Harvey Harvey Weinstein et la chanson Baby Shark, mais elle mérite qu'on lui laisse sa chance. Or là, on a quoi? Le président Trump, qui récemment à la tribune de l'ONU déclarait que le changement climatique était la plus grande arnaque de l'histoire. C'est grave de dire ça, parce qu'on sait tous que la plus grande arnaque de l'histoire, ce sont les écouteurs filaires. Sur 7 minutes qu'on a pour écouter de la musique, on en passe 6,50 à essayer de les démêler. Ça fait 3 ans que j'ai pas écouté plus de 10 secondes d'une chanson. Pour moi, sans contrefaçon de Mylène Farmer, j'ai une playlist très actuelle, c'est juste une gosse qui dit à sa mère: maman, pourquoi je suis pas un garçon? C'est limité quand on a envie de siffler le truc sous la douche, quoi. Moi, j'attendais rien de Trump, mais enfin, insinuer que le changement climatique n'existe pas, alors que l'été à Lille, il fait 40 degrés, le beffroi de l'hôtel de ville fond, fin août, il ne fait plus que 4 cm, chaque hiver, ils sont obligés de le reconstruire. Même Daniel me disait ce matin, la politique anti-migrant de Trump, c'est de la bombe, bébé. Mais sur le climat, il est aux fraises. C'est terrible de voir qu'on va dans le mur, comme des maçons malvoyants, mais qu'on ne fait rien ou si peu. Juste un exemple. Moi, j'adore les voyages, parce qu'ils permettent de s'ouvrir, de partir à la rencontre des populations locales. Je me souviendrai longtemps du sourire de Javier, le barman de l'hôtel Sheraton de Mexico, de la gentillesse de Binta, directrice de l'hôtel Pullman de Dakar. Quant au Ritz de Hong Kong, toute l'équipe était aux petits soins. Et même si j'avais pris autre chose que la suite premium, et ils auraient été au top. Vous voyez, on apprend tellement en sortant de sa zone de confort. Ça s'appelle aller vers l'autre. Hein, parfois, on prend des risques. Ce petit déjeuner en chambre où sur le papier, j'avais coché croissant et où on m'apportait un pain au raisin. Mais enfin, on ne peut pas vivre au Carlton de LA comme on le ferait chez soi. Mais le voyage, c'est l'altérité. Tout ça pour vous dire que je vais pas mal sur les blogs de voyage et je suis tombé récemment sur un post intitulé « À la découverte de la mer d'Aral avant qu'il soit trop tard ». C'est le « avant qu'il soit trop tard » qui m'a glacé le sang. Mon sang, c'est un Mr Freeze, goût fraise, parce que je suis une princesse, tout est doux et sucré chez moi. La mer d'Aral, bon, vous le savez, c'est une mer intérieure située entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Ouais. Tous ces pays ont des noms de participes présents. Elle est pour toi, c'est la prof de gauche à l'écoute de France Inter. Bref, la mer d'Aral, c'était une mer. Bon, il y avait des bateaux, des marins ivres, des MST, des poissons. Bon, techniquement, c'était un lac, mais enfin, c'est de l'eau. Hein, on va pas chipoter non plus, comme je disais récemment à Chiquito, le serveur de l'hôtel Marriott de Tegucigalpa, qui n'avait pas de Sampé, mais de la Badoit, la bouteille collecte d'or, certi d'or, 24 carats. La mer d'Aral, aujourd'hui, s'appelle la petite mer d'Aral, signe que ça rétrécit. Ensuite, ce sera la mini-mer, puis la micro-mer d'Aral. Pour te baigner, il faudra mettre un doigt de pied dans l'eau, puis un autre, pas les deux en même temps, il n'y aura pas la place. Pour les Parisiens, ce ne sera pas des paysans, ça rappellera la taille moyenne des appartements disponibles sur le marché locatif. Pourquoi la mer d'Aral a-t-elle disparu? Parce que tout le monde a pompé dans les fleuves qui l'alimentent afin d'irriguer les cultures céréalières. C'était ça où, à terme, il n'y avait plus de Coco Pops, hein, les enfants auraient pleuré. Et là-dessus, ajouter les sécheresses dues au réchauffement climatique. Voilà, c'est la première arnaque de l'histoire à assécher une mer. Trump devrait aller là-bas, le Hilton Garden d'Astana au Kazakhstan pourrait l'accueillir, l'équipe de restauration est tip-top. Un bisou Irina et Olga à l'accueil. Et hier, j'étais sur le site de l'hôtel Mercure d'Angers pour voir comment se logent les gens sans le sou, quand j'ai reçu une alerte info à propos de l'acidification des océans. Elle s'accélère, parce que tout s'accélère, tout s'emballe. Les signaux qui étaient au rouge sont à l'écarlate. D'après les scientifiques, 7 des 9 limites planétaires sont désormais franchies. Moi, au lycée, j'avais 3 sur 20 en science. La seule fois où on m'a confié une éprouvette pour faire un mélange de produits, toute l'aile gauche du lycée a connu un début d'incendie. La prof de science portait une queue de cheval après que ses cheveux aient pris feu. C'est une queue de poney atteinte de la lèpre. Bon, résultat, je fais confiance aux scientifiques. Je les crois, je les suis. 7 des 9 limites qui nous séparent de la catastrophe sont atteintes. L'acidification des océans, c'est tout le vivant là-dedans qui meurt. Les prochains films de requins, on verra des types qui font naufrage flotter sur un bout de bois, puis il y aura une musique angoissante et rien. Donc ils écriront, dis donc, on s'ennuie sec, façon de parler. Puis ils auront le temps et le loisir de faire de l'humour. Parce qu'il n'y aura plus de requins, plus de coraux, plus rien. Juste une eau chaude et neutre comme le bain de ta sœur. À la découverte de la mer d'Aral avant qu'il soit trop tard. Ce poste est prophétique. Bientôt à la place de mer d'Aral, on pourra mettre tout le reste et nous on continue à avancer vers le néant en imaginant que ce néant s'appelle futur. C'est en ça que je dis que nous sommes des cons et nous élisons partout autour de cette planète qui se meurt des plus cons que nous, qui au pire n'y croient pas, au mieux ne font rien. J'en parlais avec le responsable du Plaza de Milan qui me disait, il fait chaud, la bêtise, il était sorti devant l'hôtel au lieu de rester sous la clim. Un big up à tout le staff d'ailleurs de cet hôtel, parce qu'ils sont vraiment super.
Merci Tanguy. Tanguy sur scène ce soir à Mantes-la-Jolie et dimanche à Marseille.
Sur le sujet d'écologie, Elsa Zimmerman, ça fait partie des choses dont vous, sur lesquelles vous intéressez, ou comme
la déclaration de Trump, là, elle m'a hallucinée, quoi. On est tous concernés, je veux dire, de faire attention à notre planète, de
c'est à mon petit niveau, je fais comme tout le monde, les courses, les séparations des
le tri.
Les poubelles, le tri, voilà, mais ça se résume à ça, on va
dire. Non, mais
bon, c'est rien, mais
la
c'est,
théorie du colibri,
si tout le monde fait, voilà,
exactement. Si chacun fait sa voilà. petite goutte, on peut y arriver.
Bien sûr, bien
on va changer de phrase.
D'ailleurs, dans le film,
la petite goutte pour éteindre si l'incendie.
D'ailleurs, dans le film, Nagui, d'ailleurs, dans le film, il y a une petite...
Oui.
Dans le film, il y a une petite chose là-dessus. Oui, ils entendent les oiseaux en 58, oui. Et en 2025, ils n'entendent plus, ils n'entendent plus les oiseaux.
C'était mieux demain, le film justement dont nous parlons sortira ce 8 octobre. D'autres événements culturels.
Une série, on cherche une série documentaire sur la vie d'une icône française. Une série documentaire qui est en préparation, elle sortira en 2027. D'après vous, de qui est-ce que je
une
vous parle?
Une icône française vivante?
Non.
De mode.
Une icône française, une star française, comme peut-être on n'en fera plus jamais.
Ah, Alain Delon.
Simone Signoret.
Non.
Delon.
Brigitte
Bardot. Non, j'ai entendu Dalida, Delon, non. 2027, la date est importante.
Coco
ça fera
Chanel.
10 ans.
Johnny Hallyday.
Absolument. Johnny Hallyday.
Oui.
Ça fera 10 ans en 2027
déjà
oui, qu'il nous a quittés. Cette série sortira donc en 2027 avec des archives inédites. On le voit travailler en fait, on le voit répéter, on le voit en concert, on voit aussi un certain nombre de duos qui n'ont jamais été diffusés. C'est Michel Jankélévitch qui a réalisé le clip de L'hymne à l'amour. Pardon.
Qui a beaucoup suivi voilà. Johnny dans sa carrière. Oui,
qui
Michel.
Va justement réaliser cette série documentaire avec beaucoup de vidéos, beaucoup de matériaux comme ça qui n'ont jamais été exploité et il ne veut parler que de Johnny, le chanteur, et arrêter de parler de Johnny intime, estimant que beaucoup de choses ont été
c'est
racontées
génial.
De façon stupide et juste pour faire de la presse.
Donc le professionnel, quoi.
Vraiment, le pro est montré à quel point il était exigeant dans le travail, voir cet aspect-là, en fait, qu'on connaît assez mal. On voit simplement une bête de scène, toujours en place, toujours capable d'émouvoir les foules, mais en fait, il veut montrer le travail en action.
Oui, parce que c'est lui qui voulait ça, c'est lui qui mettait en scène. Il y avait des gens pour le conseiller, mais il avait envie que rien ne soit
laissé au
attendu,
hasard,
voilà, et que tout soit surprenant et bluffant. Il a pris des risques en plus.
Donc l'idée, c'est de rendre hommage à l'artiste qu'était Johnny Hallyday, sachant qu'en 2027, il y a aussi une autre sortie très attendue, c'est le biopic réalisé par Cédric Jimenez avec Raphaël Quenard, et voir aussi quelle va être la trajectoire choisie par Cédric Jimenez. C'est un film qui a eu l'aval de Laetitia Hallyday pour raconter aussi ce Johnny qui sera sans doute aussi un peu intime là pour le coup, parce que j'imagine que c'est difficile de faire un biopic sans entrer dans le détail, ou en tout cas dans quelques aspects de la vie sentimentale de Johnny Hallyday. Est-ce qu'il y a comme ça une personnalité française ou même étrangère dotée d'un charisme tellement fou qu'il est, semble-t-il, un peu indépassable? Johnny donne cette sensation-là de rester encore dans le cœur des
Français. Dans les chanteurs, vous voulez dire ?
Ça peut être autre chose qu'un chanteur, un artiste qui, vous a fait un effet incroyable.
Et ça peut être en dehors de l'équipe.
Hein. C'est pas forcément Tanguy ou Daniel.
Ah, moi je sais ce que vous allez répondre.
Non, qu'est-ce que je vais répondre ?
Non, mais répondez, je vous dirai si je suis d'accord.
Une personnalité que vous avez pu rencontrer qui vous a fait un effet comme ça, digne d'un Johnny Hallyday dans une vie, j'imagine qu'on n'en croise pas énormément.
Que j'ai rencontré ?
Alors, je ne crois pas que vous l'ayez rencontré, mais je sais qu'il y a une personne que vous admirez. Et
dites-moi.
Simone de Beauvoir ?
Oui.
Non ?
Si, c'est vrai.
Tu vois que je sais.
Oui, Simone de Beauvoir, c'est une personne que je trouve hallucinante. Ouais.
Pourquoi ?
Parce que tout ce qu'elle a fait, justement, alors là, elle s'est affranchie en 1900, dans les années 40. Son père lui dit, t'es une femme, t'es un esprit d'homme. Tant pis pour toi, comment tu vas faire ? Là, et elle se met à déployer une force et elle écrit, elle décide de sa vie. Alors vraiment quelqu'un qui décide de sa vie, on parlait tout à l'heure des femmes, mais c'est hallucinant comment elle s'impose et comment elle ne se marie pas, elle ne veut pas faire d'enfant, et elle veut créer, elle veut être libre.
C'est un
impressionnant.
Peu, c'est un peu Gisèle Halimi aussi, dans cette capacité à dire...
Un peu hors norme, quand
hors
même.
Hors norme, ouais.
On ne naît pas femme, on le devient. D'ailleurs, elle dit, en fait, on n'est pas bloqué par la société ou la nature même de l'éducation ou de là où on est né. On est une femme, ok, mais ça ne veut pas dire pour ça que tu vas t'habiller en rose, que tu vas récurer, que tu vas être dans les codes de ce qu'on t'a inculqué ou infligé.
Et donc, vous voulez faire un film sur une période précise de la vie de Simone de Beauvoir, c'est ça ?
Tout à fait.
Une période américaine.
Voilà.
Vous voulez rien
1947.
Dire. Bah racontez.
Ça va être un film de Anne Fontaine, que je fais l'année prochaine.
C'est que vous produisez, que vous incarnez aussi.
Que je coproduis,
Okay.
Ouais. C'est en 1947, Simone de Beauvoir part aux États-Unis, juste après la guerre, faire des conférences à New York, et elle arrive à Chicago, et elle a un numéro de téléphone qui est Nelson Algren, qui est un écrivain, romancier, qui a écrit Man in a Golden Arm, et puis ils se rencontrent, et il y a un coup de foudre entre ces deux êtres, et il y a 1200 pages de lettres chez Gallimard, des lettres d'amour entre eux.
1200 pages de lettres d'amour.
Pendant vraiment, ça dure au moins 6-7 ans, l'histoire d'amour, clairement, il lui offre une bague au départ, dans leur relation, dès le départ, une petite bague en laiton qu'elle gardera toute sa vie, et elle est enterrée avec la bague de Nelson Algren.
Oh.
Je dis pas plus.
Bah dis donc, Jean-Paul devait être content.
Bah, ils font...
T'es furieux.
Oh mais lui, il avait d'autres maîtresses,
oui, bah,
il y a aucun problème.
C'est tant mieux.
Autre question. Un film très attendu, 2028. Le film sort toujours, c'est une franchise, il sort toujours en novembre. C'est une mission à haut risque.
Mission impossible,
impossible.
Non.
James Bond.
Ça non plus. James Bond, t'as dit?
Non, James Bond.
Ah, James Bond.
James
c'est une bonne réponse de Daniel Morin. James Bond, le futur James Bond sortirait normalement en novembre 2028. C'est Denis Villeneuve à la réalisation.
Mais c'est qui le James Bond?
Alors justement,
c'est une femme,
justement, on a entendu tellement de choses sur ce futur James Bond. En effet, la possibilité que ce soit une femme noire, la possibilité que ce soit un homme blanc, un homme noir, peu importe, et bien vraisemblablement. Ce sera, le casting va avoir lieu en 2026. Oui, c'est ça.
Petit ours brun.
C'est un petit chien. Ce sera un inconnu. Je rappelle quand même que quand Daniel Craig a hérité de la franchise, c'était pas une star internationale. Mm-hmm. Donc là, l'idée, c'est de revenir vraiment aux basiques, aux fondamentaux. Ce sera un inconnu, ce sera un Britannique. On va pas aller chercher chez les Américains.
Il a été tourné ou pas?
Non, pas encore, parce que justement, Denis Villeneuve doit encore s'acquitter d'un peu de travail. Il a un dune, il a je sais pas quoi à réaliser. Il a un petit peu, voilà. Il a un petit dune comme ça des familles. Voilà. Donc le casting aura lieu en 2026, le tournage en 2027, la sortie du film en 2028. Donc il va falloir encore un petit peu attendre pour découvrir le nouveau visage de ce James Bond qui va nous accompagner pendant quelques années.
Et qui va faire la musique,
Qui va faire la musique, sachant qu'il y a eu pas mal de prétendants cités, mais vu les années avançant, si on veut pas se retrouver avec un grand-père en James Bond, il valait mieux prendre... Bah parce que, pardon, mais moi, Idriss Elba, par exemple, je vote pour depuis le départ, mais bon, j'aurais voté pour il y a 15 ans déjà, donc là, ça devient un peu compliqué, il faut lui laisser le temps de lui trouver une trajectoire, ou alors on dit qu'on s'intéresse à un James Bond plus mature, plus respectueux des femmes. Enfin, on n'est pas à l'abri que
c'est
ça, ça
c'est d'autres
arrive.
Missions, quoi.
Ouais, c'est d'autres missions. Il y a moins de cascades.
Remplacer ça en,
en chaise roulante. Voilà, James Bond, pourquoi pas. Ça peut être pour un nouveau public. Est-ce qu'il y a une franchise dont vous êtes particulièrement fan?
J'adore, c'est vrai que... Mission Impossible, je suis folle.
C'est vrai.
J'adore Tom Cruise, je suis complètement attaquée par Mission Impossible.
Attaquée,
vraiment. Et j'avoue que James Bond, j'en suis dingue.
Ouais.
Mais dingue. Quand j'étais petite, j'avais envie de sauter dans l'écran et être quand même.
Vous avez James un Bond. James Bond en particulier, parce que c'est toujours ça. Les fans de James Bond vont avoir leur chapelle. Ouais. Est-ce que c'est Sean Connery? Est-ce que c'est Roger Moore? Est-ce que c'est Daniel Craig? Ou
Pierce Brosnan?
Timothy Dalton, il en a fait deux, non?
Un ou deux.
En fait, au début, j'aimais moyennement Craig, mais je me suis habituée, je l'aime beaucoup en fait.
Ouais.
Oh, je crois qu'on s'habitue vite à Daniel Craig.
Ouais. C'est vrai que
Jean Dujardin au SS117.
C'est génial.
À la française.
C'est génial.
On a notre James Bond.
Parlons de l'avenir. Alors, l'avenir immédiat, 8 octobre, donc sorti de ce mercredi, C'était mieux demain, avec Didier Bourdon. Le 3 décembre, vous serez à l'affiche de Dites-lui que je l'aime, signé Romane Boringer.
Oh, j'ai un tout petit... C'est un clin d'œil, vraiment. C'est vraiment un clin d'œil. C'est une scène que j'ai fait par amitié.
Ça a été présenté à Cannes, en plus.
Ouais, et le film, je ne l'ai pas encore vu, mais le scénario était absolument merveilleux.
Okay.
C'est un petit clin d'œil.
Et quel est votre... Oui, alors, quel est votre caméo?
Le caméo, c'est qu'on fait un casting pour devenir Clémentine Autain.
Ah oui.
Et elle fait faire un casting à plusieurs actrices.
D'accord.
Donc on a une perruque blonde courte et on fait une scène pour la convaincre qu'on peut être Clémentine Autain. Voilà.
Vous êtes en train de tourner aux côtés de Laurence Arnay et Pablo Poli.
Je fais une petite chose. Ouais, je viens de tourner là.
En fait, que des petites choses, mais qu'est-ce que
c'était un Roman, c'est vraiment une scène, et je suis en train de tourner une série pour Arte qui s'appelle Fertile.
Très bien. Un projet aussi de développement. Alors là, est-ce que c'est l'actrice, la réalisatrice ou la productrice à laquelle je parle autour de Christian Dior?
On discute autour d'un projet. Ouais.
Et vous allez avoir un rôle dans ce... Il a une sœur incroyable, Christian Dior, par exemple.
Oui, absolument. À côté de lui, il y avait Raymond Zenecker, qui est un personnage intéressant, avec laquelle il a monté la maison, vraiment.
Est-ce que tout à l'heure vous évoquiez que la mode avait beaucoup fait pour la liberté de la femme?
Ouais.
C'est le cas aussi de Dior, il était l'un des...
C'est le lanceur du New Look, de comment les femmes aussi se libèrent. On parlait tout à l'heure avec la madame, comment les femmes étaient corsetées d'ailleurs dans les années 50 dans le film. On voit que les femmes sont tendues, empêchées, et puis comment certains créateurs ont libéré le corps de la femme. Avec les pantalons, avec... voilà. Donc Dior en fait partie, c'est des génies, des visionnaires. Ou Saint-Laurent qui met des costumes pour la femme, qui décide que la femme peut porter aussi un pantalon et un costume d'homme, pour lui donner d'ailleurs une puissance à ce moment-là.
C'est ce qu'on voit aussi dans C'était mieux demain, l'évolution des vêtements aussi.
Oui, absolument.
Et je reviens sur la couleur et sur la manière dont le film est fait, parce que la période des années 50 est filmée à la façon des films des années 50, et puis il y a tout ce travail de revenir à une espèce de modernité dans la manière de filmer aussi dans l'autre partie.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, les costumes sont vraiment bien dans le film. Et après, je suis en costume d'homme, mais coloré quand même. Y a un vrai travail sur le look du film et tout le...
C'était mieux demain, le film avec Elsa Zimmerstein, Didier Bourdon, de Vinciane Milhaud, sort ce mercredi 8 octobre. Des excuses à présenter Daniel Morin.
Évidemment, déjà désolé pour tourner les nostalgiques de la 4ème République, comme moi. Nostalgiques qui ont kiffé l'idée de pouvoir retourner en 58 en se prenant un coup de jus. Attendez un peu les gars, soyez patients. Poutine va nous renvoyer au temps des cavernes, on va être bien ici en 58, on était bien au temps des cavernes, on était super super bien, pas longtemps, espérance de vie 17 ans, mais quelle 17 années de rêve,
très dense.
Désolé pour Vinciane Milhaud, la réalisatrice du film, qui a vu son travail de plusieurs années sur la condition féminine résumé par Nagui à une scène d'auto-fessée de notre invité Elsa Silverstein. Ah bah c'est pas le masque et la plume, hein, c'est la BD, c'est la BO, c'est très SM et art de vivre, surtout le film, c'est ce que Nagui adore. Deux secondes. Bon. Et désolé enfin pour tous nos auditeurs en délicatesse avec leur prostate et qui ont fondu en larmes quand ils ont entendu le cri du cœur de Papy Nagui, à savoir, c'est important que chacun puisse apporter sa petite goutte. Oh, voilà, mais c'est, en même temps, c'était très touchant.
Non, mais t'as été le premier à comprendre en même temps.
Ah oui, bah, oui. Parce que Leïla, la petite goutte, c'est dans. C'est
merci.
Et s'il y avait une goutte avec Leïla.
J'étais en train de te défendre en plus. C'est clair. T'as vu l'ingratitude.
Merci Elsa Zimmerstein.
Merci, c'était génial.
Lundi, parce que c'est le week-end. Et salut Cissé seront nos invités. Bon week-end sur Inter. Ciao.